Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour. Alors je vais vous lire dans un instant le courrier d'un auditeur que j'ai reçu. Vous imaginez à quel sujet, puisque c'est à peu près 100% des courriers que je reçois. Faut-il désindexer les prestations sociales et les pensions de retraite en 2025 pour trouver 20 milliards d'euros ? Oui, dit très clairement Sylvain Maillard. Il est président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Il défend l'idée d'une année blanche. Jean-René Cazeneuve pour le budget est séduit par l'idée de non-indexer le barème de l'impôt sur le revenu. Si on avait fait ça sur le revenu 2023, paf, 6 milliards. 6 milliards de recettes supplémentaires. Il y a une commission d'enquête sur la croissance de la dette qui a été mise en place et qui est pilotée par le LR Philippe Juvin. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre ? En tout cas, les termes sont durs. Olivier Marleix dénonce carrément un maquillage de la dette depuis 2017. La réforme de l'assurance chômage sera imposée par décret le 1er juillet. C'est un mélange d'économie, un mélange d'espoir de retour à l'emploi. Le groupe Lyot, qui avait déjà brillé par sa résistance face à la réforme des retraites, ils ont été à 9 voix de la motion de censure à l'époque, eh bien, a décidé de sortir une proposition de loi pour contrer cette réforme de l'assurance chômage, renforcer le pouvoir des partenaires sociaux au moment où le MEDEF a pris position et défend désormais la réforme du gouvernement. Également dans l'actualité économique du jour, on réagira aux propos du patron de la Booba, Joachim Nagel, qui dans les échos indique qu'il ne faut pas baisser trop vite les taux de la BCE, ça mettrait en péril le travail accompli. Bonjour Éric Heyer.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous avez coécrit « Une autre voie est possible vers un modèle social écologique » chez Flammarion, champ actuel. Jean-Pierre Petit, bonjour.
Bonjour.
Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Bonjour Christian Saint-Étienne.
Bonjour.
Vous êtes professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, dernier ouvrage en date, « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial, collection Alpha ». Justement sur cette thématique de comment la doctrine de l'Europe doit-elle s'écrire dans le monde nouveau, on en parlait lors d'une émission que je vous conseille lundi de Pentecôte avec Laurence Boone, avec Emmanuel Combes, avec Christian Parizeau. Et je vous invite à lire la page 12 et 13 des Échos aujourd'hui. Ils ont demandé aux principaux candidats aux européennes de se positionner par rapport au libre-échange. Ça mérite d'être lu. Après, il peut y avoir un débat sur pas mal de thématiques abordées. Oui, alors, ne partez pas tout de suite parce que j'ai parlé de désindexer les pensions de retraite. François à Perpignan m'a écrit carrément avec accusé de réception. Vous savez, François, je lis les courriers même sans accusé de réception, même ceux qui arrivent sur la boîte BFM et vous. C'est pas mon compte Twitter, mais je lis les réactions. Beaucoup des réactions que je reçois en ce moment portent effectivement sur les retraites, dans la mesure où pas mal de mes invités considèrent qu'il y a peut-être des choses à faire bouger sur notamment l'indexation ou non des pensions de retraite. Et alors, ils considèrent qu'on ne rappelle pas assez souvent que les retraités ont cotisé. Et donc, ils ont droit à une pension de retraite. Voilà. Ils sont peu nombreux, dit-il, à donner une information objective. Il dit que c'est scandaleux que des soi-disant experts critiquent la dernière augmentation de 5%, alors 5,3% hein, précisément, des retraites en 2024. Voilà. Et monsieur, voilà, veillez à donner une information conforme à la réalité des faits. On dirait que vos intervenants sont tous jeunes, en majorité. Bienvenue les jeunes.
C'est vrai.
Salut, qu'on est jeunes. Et que les retraités, ils souhaitent que les retraités se retrouvent dans la pauvreté qui les avait touchés entre les deux guerres. Voilà ce que m'écrit François, et je le cite, mais il n'est pas seul à m'écrire et à réagir à ce qu'il entend. C'est pas moi, là, monsieur François. Et s'il s'agit de Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Alors, ils votent le budget, les députés, mais enfin, c'est pas vraiment eux qui décident les grandes lignes. Éric, première réaction. Comme dit François Eckhall, c'est hyper facile, ça rapporte bien. Hein. On désindexe tout, là. APL, allocation familiale, RSA, pension de retraite, barème de l'IR, hop. Et puis les milliards sont là. On monte les impôts sans que ça se voit.
C'est vrai. Non, c'est assez facile à faire. On peut penser qu'avec l'illusion nominale, on n'a pas l'impression que finalement on a renié le pouvoir d'achat. Alors plus il y a l'inflation, plus c'est efficace, d'accord. Oui. Puis ça rapporte. Mais bon, allez, c'est complètement injuste. Entre nous, c'est vrai qu'il faudrait tout de même d'abord bien comprendre pourquoi on en est arrivé là en termes de finances publiques. Et une fois que vous avez compris, on va trouver des mesures. Si c'est à cause des retraités, eh ben ok, pénalisons les retraités. Mais on sait très bien. Alors ça dépend. Il y a une partie qui est structurelle. avant 2019 et puis depuis 2019. Depuis 2019, si les déficits ont fortement augmenté, si la dette publique a pris à peu près 15 points, d'accord, c'est à cause du quoi qu'il en coûte, c'est à cause des boucliers énergétiques, c'est un peu à cause de cette crise. Donc la question est de savoir qui a bénéficié de toutes ces aides, est-ce que toutes les économies, et du coup on se dit comment on finance tout cela. Mais bien entendu, ce sont pas
tout le monde.
Mais voilà, donc si vous dites il va falloir mettre tout le monde à contribution, bien entendu les retraités vont devoir aussi être mis à contribution, mais il va falloir dire tout le monde va être mis à contribution et on va vous expliquer comment on va mettre à contribution les retraités, les actifs, les rentiers, l'intégralité des personnes. Et il est là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ce plan-là. On essaye de faire porter sur certains, donc avec la réforme du chômage sur les chômeurs, avec la désindexation des retraites, les retraités, avec ceux qui ont des...
Alors non, là, c'est désindexation. Là, c'est carrément...
Ah oui, là, c'est mais même la sous-indexation, c'est faire contribuer les personnes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'accord, c'est pour ça que j'écoute vos émissions parce qu'elles sont intéressantes et souvent l'impôt arrive parce que effectivement,
souvent, oui.
si vous pensez qu'il y a eu des dépenses exceptionnelles pendant 3 ans, bien sûr vous dites il va falloir faire un financement exceptionnel, sauf que l'exceptionnel c'est compliqué, mais vous voyez, en gros, ça, c'est un financement exceptionnel. On dit, allez, on désindexe pendant une année.
Année blanche.
C'est une année blanche. Mais il va falloir... il va falloir dire... Vous voyez, parce que À notre point, et après je laisse la parole. Globalement, toutes ces aides, tout le quoi qu'il en coûte, en gros, globalement, on a été un peu déçus par la reprise. On pouvait penser, comme les Keynésiens le pensent, on fait des aides, on injecte beaucoup d'argent, ça permet à l'économie de repartir très franchement. En fait, on a été un peu déçus, c'est pas parti très franchement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande partie de ces aides qui est allée se loger dans la surépargne. Encore une fois, cette surépargne, c'est à peu près 250 milliards d'euros. Et donc, on peut se dire, attendons que cette surépargne retourne dans la consommation, etc. On attend depuis longtemps, ça ne repart pas, d'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on est déçus, et c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de recettes, et que globalement, les déficits sont importants. Vous voyez, aux États-Unis, la surépargne a été complètement consommée.
Ah oui, ils sont à 3% de taux d'épargne.
Et c'est reparti. Malgré ce, ils ont quand même 7% de déficit.
Ah, oui,
mais bon,
oui.
Ok. Donc, soit on se dit, il va falloir remettre cette surépargne un peu, soit on se dit, qui a surépargné ? Surépargné, là, il y a des études du CAE qui nous montrent que c'est plutôt les ménages aisés.
Donc, c'est généralement quand on a des sous qu'on épargne.
Du coup, on peut se dire, allez, essayons de mettre tout le monde à contribution, ou alors personne, et attendons que la reprise arrive. Mais je pense qu'effectivement, désigner des coupables qui se sentent pas coupables, parce qu'effectivement, c'est pas eux les coupables de l'augmentation de la dette, je pense que c'est pas la bonne façon de faire.
Bon, alors, certains qui sont pourtant hostiles à l'impôt considèrent que peut-être il faudrait un geste exceptionnel, mais la crainte c'est qu'en France geste exceptionnel devient pérenne.
C'était le premier discours de campagne d'Éric Heyer pour la prochaine présidentielle.
Non, mais c'est bien d'expliquer qu'effectivement... j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à le débrancher, le quoi qu'il en coûte. Pourtant, il a été bel et bien débranché, très concrètement.
Il n'est pas débranché.
Il est débranché sur l'électricité, sur le gaz.
Il est débranché sur les cheminots qui font grève.
Voilà.
La
RATP, tout le monde, dès que tu as du pouvoir
de nuisance, tu as des gouvernements.
Pas exactement sur le même terrain que le.
Extrêmement faible, lâche.
Oui, mais c'est une conséquence. On a installé l'argent facile.
Vous croyez que c'est une torsion psychologique, le fait d'exiger tout et n'importe quoi.
On va pas faire la psychanalyse des peuples, mais il y a quelque chose qui est analysé actuellement sans réponse, c'est qu'aux États-Unis, ils sont revenus au comportement d'avant le Covid et pas en Europe. Oui. Pourquoi en Europe on continue de penser que il y a pas de mouvement pour la semaine de 4 jours aux États-Unis, il y a pas de volonté de continuer à dépenser, ainsi de suite. Et ce qui est frappant pour la France, et sur ce point je rejoins Eric, mais pas complètement, c'est que quand vous prenez les 5 années 2000 à 2024, 2020 à 2024, ça fait 5 années. Sur ces 5 années, on a un déficit public qui est en moyenne de 6 points de PIB et la croissance reste par terre. Donc la question, c'est pourquoi on n'arrive pas à remettre en route les mécanismes de croissance ? Ça, c'est le cas de la France, mais c'est à peu près aussi le cas de la zone euro, alors qu'aux États-Unis, ça, c'est reparti. Alors bien sûr,
Vous avez un élément de réponse, Christian, ou pas?
Oui, on l'a pas évoqué là, mais quand même, on reste marqué en Europe par la guerre en Ukraine. Tout le monde se dit où est-ce qu'on va demain si les Russes commencent à utiliser des armes tactiques, ainsi de suite. Les Américains n'ont pas ce problème. Mais au-delà de ça, on a un problème de conduite de la zone euro depuis 20 ans. Donc ce problème central n'est pas résolu. Mais juste en un mot sur les indexations. Il y a quand même un sujet spécifique en France, c'est le poids de la dépense sociale. Et donc, je suis contre les années blanches qui sont évoquées par Maillard et d'autres, mais une sous-indexation d'un point par an pendant 3 ans sur toutes les prestations sociales, c'est-à-dire si l'inflation est à 2%, on augmente que de 1%. Et comme le disait Eric, faire en sorte que ce soit inclus dans un plan d'ensemble, c'est-à-dire qu'on fait une sous-indexation d'1% sur les tranches d'imposition, éventuellement sur les salaires de la fonction publique, ce qui sera sportif. Mais si on fait un plan général de sous-indexation de la dépense publique de 1% sur 3 ans, à ce moment-là, ça peut éventuellement être compris. Ça ne veut pas dire que ça passera socialement.
D'accord, mais c'est quand même un super méga rabot, quoi. Il n'y a aucune vision stratégique de long terme, quoi que ce soit. C'est de la course au milliard avec les dents.
Non, mais ce qui serait intelligent, c'est dans le même temps augmenter les dépenses sur les infrastructures et avoir, de mon point de vue, c'est probablement le moment, une incitation sur 18 mois à l'investissement productif avec un amortissement accéléré. Ça a été utilisé dans le passé.
Ça fonctionne bien.
Ouais. Ça fonctionne bien, c'est un des rares trucs qui fonctionne.
Vous me direz ce que vous espérez de la commission qui voit le jour sous la baguette de Philippe Juvin sur la croissance de la dette. Oui, là-dessus, Jean-Pierre Petit.
Alors, moi, sur le plan politique...
C'est une proposition d'un député, certes de poids, mais d'un député. Ça ne vient pas de Bercy, attention, c'est important de le préciser quand même.
Alors, sur le plan politique, je trouve que c'est extraordinairement maladroit, non seulement au plan du strict plan de la tactique politique avant les élections, mais même du point de vue du message. Effectivement, on s'attaque à une catégie de la population, là.
Des catégories. L'IR, c'est les gens qui le payent. Prestations sociales, c'est les gens qui les payent.
On s'attaque aux retraités.
Mais il n'y a pas que les retraités, là,
C'est le gros morceau.
C'est le gros morceau. Le gars qui paye l'IR et qui passe d'une tranche ou qui rentre dans l'IR, pour lui, c'est un gros morceau.
Ça, il ne s'agit pas d'une économie. Ça, il s'agit d'une augmentation d'impôts.
Bien sûr.
Non, mais là, je parle des économies. Oui. Au sens comptable, des économies. On s'attaque à une partie de la population. Alors, on se plaint qu'il n'y a pas de reprise. On vient de le dire à l'instant, mais que je sache, les retraités, c'est une source de consommation très importante. Oui. On se plaint du haut niveau d'épargne. Mais si on commence à dire aux Français, non seulement les retraites, vous allez en avoir de moins en moins, mais on ne vous préservera pas votre pouvoir d'achat, alors là, le taux d'épargne n'est pas prêt de baisser. Hein. Donc sur le strict plan politique générale et macro-générale, c'est très maladroit. Mais je pense aussi que c'est basé sur une idée, à mon avis, très contestable. C'est ce qu'on entend toujours, c'est que le niveau de vie des retraités est plus élevé que celui des actifs
globalement.
En France, globalement.
Mais vous contestez ça ?
Pardon ? Non, je le conteste pas, mais il faut bien nuancer. Une très bonne étude du Corps l'an dernier qui montrait bien que le revenu disponible des retraités est inférieur à celui des actifs. Y compris en tenant compte des revenus des actifs. Et revenus des actifs, c'est normal que la concentration du patrimoine soit liée à l'âge. C'est un phénomène universel qui existe dans tous les pays. Évidemment, quand tu as 70 ans, tu as plus de patrimoine immobilier.
Le distinguo, là, Jean-Pierre, entre le revenu disponible qui vient de la pension tous les mois et le patrimoine global.
Et tous les revenus en masse sont inférieurs à ceux des actifs. Simplement, il faut raisonner en termes de niveau de vie par unité de consommation dans les ménages. Ils ont moins d'enfants à charge, évidemment.
Généralement.
Et ça, c'est un phénomène universel également. Oui. Ils sont propriétaires de leur logement.
Souvent.
Donc, ils ont moins de loyer. Ils ont juste les charges et la taxe foncière, en gros, et l'IFI éventuellement. Voilà ce qu'ils ont. Et donc, effectivement, pas en niveau de vie par unité de retraités par rapport aux unités d'actifs, effectivement, ils ont un peu plus, ils ont une dizaine de pourcents. Mais
8,
c'est lié à une logique. C'est parce qu'ils sont vieux, excusez-moi, mais c'est parce qu'ils sont seniors. Que la situation est comme ça.
Merci de prendre la défense des retraités. C'est François qui va être content.
Christian et moi, on est retraités, mais on est actifs. Lui, il bosse, il est prof, il écrit ses bouquins, il fait des conférences. Et moi aussi, je continue de bosser. Et j'irai jusqu'au bout.
Ouais.
Si la santé suit.
La mise au point en développant la notion de les retraités sont plus riches que les autres, globalement, c'est pas mal de l'expliquer dans le détail. travail.
Oui, il y a un point clé qu'il faut redire. Qui a été dit par Jean-Pierre. C'est normal que les retraités, en l'occurrence, en fin de vie, aient un patrimoine supérieur aux jeunes, puisqu'on a économisé toute sa vie. Donc, parce que vous avez des députés de LFI qui disent c'est dégueulasse. Il faut leur piquer leur patrimoine.
Ils ne le disent pas avec ces mots-là, Christian.
Si.
Non, ils disent pas c'est dégueulasse,
mais ils ont pas dit c'est dégueulasse, mais ils disent il faut leur piquer leur patrimoine.
On vole des indexés, les pensions de retraite. En plus, le mot désindexé, tout le monde ne le comprend pas. Point de désindexation, c'est 3 milliards.
Je parle pas de ça. Je dis qu'il y a aussi des appels pour prendre le patrimoine des plus âgés, parce que ça serait anormal qu'ils aient un patrimoine plus élevé, alors qu'en réalité, c'est le fruit de l'épargne sur toute une vie.
Vous allez vous faire des amis aujourd'hui, c'est bien. Là, vous avez que des copains.
Allez, moi aussi,
c'est pas la peine d'attendre d'être retraité pour vivre mieux. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, généralement, j'achète du pinard qui est moins mauvais que quand j'en avais 18.
Pareil. Oui.
Non, mais pour enfoncer le clou,
allons-y.
Depuis 1993, d'accord.
Début des allègements de cotises, c'est ça?
Non, c'est qu'on a on a désindexé les pensions sur les salaires pour l'indexer sur les prix.
Quel
était l'objectif? C'est que le niveau de vie des retraités soit inférieur au niveau de vie des actifs. Pourquoi? Parce que les salaires progressaient plus vite que les prix. Donc, vous voyez, et ça, c'est comme ça qu'on fait des économies depuis, qu'on essaye d'en faire, que les dépenses progressent un peu moins vite que les recettes. Bon, là, manque de chance dans cette stratégie-là, c'est qu'il y a eu plus d'inflation, donc les prix ont augmenté plus vite que les salaires. Donc là, oui, les retraités ont touché un peu plus que les actifs. Oui, mais attendez, ils ont perdu pendant des années et, vous voyez, normalement, à partir de 2024, les salaires vont progresser plus vite que les prix, normalement. Et donc, du coup, on va retrouver. Donc, c'est pas possible de les désindexer. Vous voyez, encore une fois, soit on dit... Et puis, alors, moi, je pense que c'est important. Il faut qu'il y ait toujours un objectif. Si on pense qu'il y a un problème de retraite en France et que le financement des retraites n'est pas fait, qu'on pense à désindexer, pourquoi pas? Mais il faut mettre ça sur le sujet des comment on finance les retraites. Là, c'est pas sur ce sujet-là. Là, c'est sur les finances publiques en règle générale. On ne doit pas rentrer dans ce phénomène-là. Un dernier point, pourquoi c'est compliqué aujourd'hui et on pense qu'on n'a pas été aidé, donc c'est pas normal que ce soit à nous de payer? Pourquoi? Parce qu'on a fait, et c'est un choix français, dans la deuxième partie, et Christian l'a répété, c'est une grande différence avec les États-Unis, c'est que les États-Unis, il n'y a eu que le quoi qu'il en coûte, Covid. Nous, il y a eu en plus les boucliers énergétiques liés à la crise ukrainienne. Le choix français, ça a été de faire des boucliers énergétiques. Dans les autres pays, ils ont fait des chèques.
Oui. Et pour on a fait des chèques ciblés plutôt qu'un...
Quel est l'avantage global de faire des boucliers? C'est que du coup, on a des niveaux de prix bien plus bas qu'ailleurs. C'est en France où on a le mieux passé cette période inflationniste. On a à peu près 4-5 points d'inflation en moins cumulé depuis le début de la crise. Donc, c'est cet intérêt-là. Et donc, les salaires vont progresser moins vite parce que, en termes de pouvoir d'achat, l'inconvénient, le gros inconvénient, c'est que quand vous mettez un bouclier, vous ne savez pas que vous avez été aidé. Vous voyez, expliquer à quelqu'un qu'au supermarché, les prix ont été plus bas que si on n'avait pas fait le bouclier, c'est impossible à expliquer. Donc on a l'impression de ne pas avoir été aidé. Donc pourquoi payer alors qu'on n'a pas été aidé? Quand vous recevez un chèque, vous avez reçu le chèque, vous savez, et donc vous dites « Ah bon, oui, j'ai été aidé, là on m'en reprend la moitié, un tiers, j'en sais rien, j'ai été aidé, tout de même, je suis gagnant dans la partie. » Donc c'était une stratégie assez intéressante de désinflation compétitive, quelque part. Nos prix ont augmenté moins vite qu'ailleurs, donc nos salaires moins vite qu'en Allemagne, moins vite qu'en Italie. Ça va peut-être porter ses fruits dans quelques temps en termes de compétitivité, peut-être, d'accord, mais en termes d'explication et de comment on doit le refinancer, eh ben, c'est extrêmement compliqué.
Mais généralement, les gens ne voient jamais quand ils sont aidés. Ils voient ce qui sort, ils voient rarement ce qui range.
Quand vous recevez un chèque,
non, mais j'oublierai jamais la sortie de la séquence Gilets jaunes, c'est une sortie à 17 milliards d'euros avec des baisses de CSG, avec la prime d'activité. Enfin, c'est pas du flan. Et on voyait les réactions, on n'a rien eu. C'est 2 minutes 20. Christian Saint-Etienne, je vous pose la question, est-ce que vous avez confiance dans Bercy? Confiance dans Bercy qui semble tomber de sa chaise au mois de mars en découvrant que les recettes ne sont pas au rendez-vous et que le déficit n'est pas à 4,9 mais 5,5. Au Sénat, on se demande si tout est très transparent. Là, on a une commission sur la croissance de la dette. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Philippe Juvin qui va piloter cette commission. Et puis le président du groupe LR parle d'un maquillage de la dette carrément depuis 2017, Olivier Maralex. Alors, soit c'est de la pure provocation politique. Vous avez confiance dans Bercy?
Sur la machine interne, il y a des notes qui remontent à partir de novembre sur la chute des recettes. Donc, elles sont certainement transmises immédiatement au cabinet. C'est le cabinet du ministre qui décide ce qu'il fait de ces informations. Il les publie ou il ne les publie pas. Il peut peut-être espérer qu'il y aura un rebond dans les dernières semaines de l'année 2023. Donc, il y a certainement, au niveau du cabinet du ministre, soit des incompréhensions, soit une stratégie de très court terme, soit le ministre lui-même à ce moment-là a d'autres objectifs politiques. Il va sortir un bouquin et il ne veut pas gêner la communication sur la sortie de son livre. Voilà, donc il y a probablement des questions internes. Ceci étant, si on regarde ça sous l'angle économique, c'est pas du côté des dépenses, sauf erreur que soulignera immédiatement Eric, c'est pas du côté des dépenses qu'on a eu un problème en 2023, c'est une très forte chute des recettes. C'est une chute qui interroge sur l'IS, bien sûr. L'activité est moins bonne, donc ça va très très vite en chute d'IS. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure avec Jean-Pierre et Eric, il y a la question du manque de confiance et du manque de consommation, parce que la consommation, c'est de la TVA. Donc quand vous avez TVA et IS qui répondent mal, ça vous... Et en plus, c'est extrêmement rapide, puisque la TVA, c'est du mois au mois. Ouais. Donc, on a vraiment les conséquences de la très très faible croissance. Alors, dans cette émission, il n'y a pas très longtemps, on était très pessimiste, c'était il y a 2 mois ou 3 mois, et j'avais dit, moi je suis moins inquiet sur la deuxième partie de 2024. Je savais que le premier semestre n'était pas bon, mais je pense qu'on pourrait avoir un petit rebond dans le second semestre de 2024. On va peut-être en parler tout à l'heure, et ça pourrait améliorer les résultats des finances publiques pour l'année 2024. Mais malheureusement, on sera encore à 5 points de déficit pour cette année.
En tout cas, clairement, on sent en sous-texte qu'il y a des questions qui se posent sur est-ce que vraiment Bercy n'était au courant de rien sur l'ampleur du dérapage qui nous attendait pour fin 2023,
car parce qu'il le savait dans 4 mois avant qu'il le dise.
Dans l'ensemble du mois de novembre-décembre, on ne change pas une ligne de la loi de finances 2024. Et on sait bien que si 2023 tanque, on démarre 2024 pas dans les mêmes conditions, et donc il faut l'adapter avant le vote. Bon, on marque une pause. Vous me direz ce que vous en pensez, ce qu'on peut espérer. À quoi ça sert une commission sur la croissance de la dette? Enfin, je ne sais pas. Et puis, ah bah oui, la réforme de l'assurance chômage. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Est-ce trop tard pour moi? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Éric Ayère, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Christian Saint-Etienne, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, membre du Cercle des économistes. Bon, évidemment, je reçois des courriers, mais des réactions en direct. Alors, ça y va, hein, dans les deux sens. Hein. Voilà, on parle beaucoup des retraités, me dit Lionel, mais l'avenir, c'est la jeunesse. Elle souffle économiquement. À cause du logement, notamment, dit-il. Et chaque fois, il y a des choses vraies. Hein. Je suis retraité, m'écrit Yamanakako. Je touche moins de 50% de mon dernier salaire, ça n'a rien d'extraordinaire, par exemple. Il y a John qui me met, soyons sérieux, la génération 70 est mieux lotie en termes d'accumulation de richesses que la génération actuelle. Jusqu'à quand va-t-on s'étonner en France qu'une personne qui a travaillé 42 ans a un meilleur niveau de vie qu'une personne qui a travaillé 5 ans, par exemple, m'écrit Richard. Christian Saint-Etienne, le parc immo français a pris plus de 400% en moyenne, sans parler des salaires qui ont augmenté. Ils doivent participer à l'effort national, les retraités, m'écrit-il. Tout à fait normal d'avoir plus de patrimoine lorsque l'on est senior, écrit Guillaume. Mais soyez honnête, le prix de l'immobilier est depuis 20 ans en forte augmentation car la masse monétaire a fortement augmenté au détriment des jeunes actifs.
Et ça, il faudrait...
Les gens qui ont travaillé depuis les années 80-90 n'ont jamais connu les 35 heures, mais plutôt 45-50 heures, n'avaient rien d'exceptionnel, m'écrit LP pour défendre les retraités. Ah ça, c'est Isabelle qui justement, mais il date d'il y a 2 jours. Émission passionnante, dit-elle, à propos de celle du numéro spécial protectionniste libre-échange doctrine européenne qu'on a fait lundi. Il y a du vrai partout, hein.
Non, enfin,
Jean-Pierre, il y a du vrai partout.
Non, mais du vrai, oui, ok. Mais d'abord, il y a une remarque chez un de vos auditeurs qu'il faudrait creuser un petit peu. On prend les 17 millions de retraités, mais oui. Les conditions en termes actualisés des retraites
d'un jeune retraité, par exemple, de 64 ou 65 ans, n'ont rien à voir avec celles de quelqu'un qui est parti et il y a 30 ans et qui est encore vivant, hein, puisque ça va de 62 à 110 ans. Et ça n'a rien à voir en termes, si tu actualises les données, la cotisation actualisée versus retraite actualisée.
Le retraité de 65 ans, c'est pas comme celui
bien plus
de
favorable il y a 30 ans. Ouais. Moi, je me souviens, j'ai travaillé dans le secteur public, je voyais des gens partir à 5 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, partir à moins de 55 ans. Donc ça c'est fini quand même dans l'ensemble. La deuxième chose sur les prix immobiliers. Attention parce que au KFR on suit ça de très près, on fait des présentations assez fréquentes sur les perspectives de rentabilité du marché immobilier, en particulier résidentiel. Les prix réels, déflatés de l'inflation et déflatés de l'ensemble des coûts d'entretien et de rénovation de l'immobilier. Alors les coûts, il y a les coûts fonciers, il y a les charges de copropriété, enfin il y a plein de trucs.
À l'arrivée, ça coûte ça.
À l'arrivée, le prix réel n'augmente beaucoup moins souvent qu'on le beaucoup moins fortement, pardon, qu'on le dit fréquemment.
Ah, le prix réel.
Ah bah, c'est ça qui compte.
Oui, mais en fait, soyons plus précis pour les auditeurs. Sur 30 ans, en réel, ça a augmenté de quoi ? 30 à 40%.
Oui, à peine.
Alors qu'en nominal, c'est 200. C'est pas 4 fois, c'est 200.
Oui, à Paris, un peu plus.
Enfin, donc, en gros, si on précise pour les auditeurs, ça a doublé en nominal, mais ça n'a augmenté que de 30% en réel.
Faut pas oublier qu'il y a eu des baisses, quand même, même nominal. Au début des années 80, les prix immobiliers baissaient. Entre 91 et 97,
Été un bain de sang.
C'était un bain de sang, notamment en Île-de-France. T'as eu aussi une petite baisse, on l'a déjà oublié, entre 2012 et 2015. Et là, t'as une baisse depuis 2 ans, quoi, à peu près.
Il faut rappeler que sur 50 ans ou 100 ans, seules les actions protègent le pouvoir d'achat.
Oui.
Mais il y a eu qui a sorti une étude assez passionnante là-dessus. Sur 40 ans, effectivement, il n'y a pas photo, quoi. Le rendement est là et pas.
Non, mais la taxe inflationniste, il faut quand même la rappeler. Hein.
Alors, allez-y, Eric.
L'inflation a fortement augmenté, d'accord. Donc, on parle que du pouvoir d'achat en réel. Mais quand vous avez des biens, eh ben, votre niveau, finalement, d'actifs a aussi chuté. Et ça, on le voit on dit bien que l'inflation, quand vous avez du patrimoine, c'est pas bon, d'accord. Et c'est quand vous êtes endetté.
L'euthanasie des rentiers.
Et donc, Donc, pour la dette publique, ça a été très intéressant.
Oui.
Il y a une partie qui s'est dévalorisée et pareil pour les actifs, et c'est extrêmement important de dire que peut-être, et c'est ça un élément qu'on essaie de dire, pourquoi aujourd'hui la surépargne ne baisse pas une raison possible, on n'a pas réussi à le montrer, c'est parce que le patrimoine des actifs, le patrimoine a fortement chuté à cause de cette taxe inflationniste. Et donc si vous avez un objectif de patrimoine, d'accord, et ben puisque votre patrimoine en réel a baissé, j'épargne un peu plus. Bon, c'est un raisonnement un peu compliqué. Est-ce que les épargnants font ce raisonnement là est-ce que leurs conseillers patrimoniaux disent attention, il y a cela? C'est possible, parce que puisque ce sont plutôt des actifs qui sont aisés, qui ont cette surépargne, c'est eux qui ont aussi perdu ce patrimoine. Peut-être que c'est juste la compensation de ça.
Intuitivement, on sait que beaucoup de gens ont plus une réflexion en nominal. Et
c'est vrai. Bon. Donc c'est possible que ça ne soit pas. Et c'est
pour
ça
sur ce point précis.
Mais on ne va pas faire
tout ça.
On va pas faire une demi-heure d'éflater de l'inflation, si vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais sur ce point précis, les gens peuvent avoir un raisonnement réel sans le savoir. C'est-à-dire que si l'objectif des classes moyennes, c'est de se dire je veux, à 50 ans, avoir 60 mètres carrés dans Paris, il faut un raisonnement réel.
Ah oui.
Et donc, à ce moment-là, effectivement, ils sont obligés de surépargner pour arriver aux 60 mètres carrés qu'ils ont en objectif.
Non, mais ça, c'est intéressant. C'est une espèce d'effet d'encaisse réelle à la Pigou, mais appliqué à l'ensemble du patrimoine et non pas au...
Un effet de quoi, la Pigou? Arthur Pigou. Oui.
C'est le fondateur des effets d'encaisse réelle.
L'effet Pigou, c'est la baisse de la valeur réelle des encaisses quand il y a de l'inflation.
Mais ça s'appliquerait à l'ensemble du patrimoine, sachant qu'entre-temps, la taxation foncière a augmenté aussi.
Voilà, fortement.
On va tenir compte de cela.
Si vous voulez apprendre à réfléchir réellement, venez sur BFM Business. Vous avez fait partie à une époque du Haut Conseil des Finances Publiques, avec ailleurs. J'ai eu l'impression qu'on était passé à deux doigts du mot insincérité dans le dernier rapport du Haut Conseil. Ouh là là, c'est... Les mots étaient choisis, je sais que tout est pesé. Le mot insincérité, quand ça sort d'un document de magistrat, ça a un sens juridique et donc c'est une frontière que l'on franchit ou que l'on ne franchit pas. Vous êtes posé au fond de vous la question sans...
Non, mais je pense, et très sincèrement, qu'il faut arrêter d'utiliser ce mot insincère. Vous voyez, on était à deux doigts. Le Haut Conseil était à deux doigts uniquement en disant les perspectives de croissance sont...
Sur les perspectives, c'est vrai. Voilà.
Mais vous vous rendez compte que finalement, ils vont peut-être avoir raison. C'est-à-dire que, alors Christian l'a un peu rappelé, on était très pessimistes.
Ils vont.
Le gouvernement. Le 1% de croissance aujourd'hui est jouable. Alors qu'effectivement, il y a 2-3 mois, on disait que c'était injouable. Nous-mêmes à l'OFCE, on était bien plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a une révision de la fin d'année 2023. La croissance a été un peu plus élevée. Donc, l'acquis de croissance est plus élevé. Et le début d'année, Christian parlait de la deuxième partie, le début d'année, il y a eu plus 0,2. L'INSEE prévoyait 0. Ouais. Quand vous commencez avec un meilleur acquis et 0,2 au premier trimestre, là, d'un coup, le 1%, il est jouable.
Donc, si on fait 0,3, c'est bon.
0,3 chaque trimestre, c'est pas complètement injouable. Alors qu'avant, il fallait faire 0,7 chaque trimestre si l'INSEE avait. Donc, du coup, on est passé de quelque chose de quasi improbable. Alors, c'est pour ça qu'il faut être très
prudent. J'entends d'ici Bruno Le Maire, si vous avez raison à la fin.
Mais bien entendu, mais il aura
raison.
Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser des mots insincères ou improbables. Vous voyez, on est quand même sur des moments un peu compliqués à analyser. Est-ce que pour autant, là, juste pour revenir sur le débat qui s'est engagé à la fin de la première partie, sur est-ce que... Mais Bercy, il travaille très bien. Comme
eh oui,
il travaille très bien. Ensuite, que fait le politique de cette information-là ? C'est un peu ça l'idée. Moi, je pense qu'il y a quand même un élément qui, tout de même, tord le cou à des idées. Vous voyez, on a été mal éduqués en 2021-2022. Les recettes étaient gigantesques compte tenu de la croissance. Donc cette élasticité, sans être trop technique, normalement, l'élasticité est unitaire en moyenne entre la croissance et les recettes. Quand la croissance est de 1%, les recettes sont de 1%. Allez, en moyenne. Là, pendant deux ans avant 2023, on avait des élasticités qui montaient à 1,6. C'est-à-dire que quand j'avais 1 de croissance, j'avais plus 1,6 de recettes. Et on disait... on était bien dans trop d'impôts, tue l'impôt, parce que dès qu'on baisse l'impôt, vous voyez, hop, ça fait plus de recettes. Bah, vous voyez, en gros, là, c'est juste un rappel. Là, on a fait zéro, on est descendu en dessous d'unité. C'est normal. En moyenne, ça fait 1. Donc, on s'était habitué à mettre du 1,6, mais 1,6, c'est pas possible. Et donc, on a été extrêmement surpris. Mais en fait, c'était pas si étonnant que ça.
Si on est vraiment un expert à Bercy, votre raisonnement sur l'élasticité, on le connaît.
Oui,
on
connaît.
On n'est pas surpris
on s'est dit, qu'est-ce qu'a fait Bercy ? Mais comme nous, on fait, quand vous savez pas, vous mettez 1.
D'accord.
Puisqu'on était à 1,6 depuis deux ans...
Ils ont fait 1,3.
Ben voilà, mais en fait, ils auraient dû être... La prudence aurait été de dire, allez, je continue à faire 1 en moyenne, puisque ça a été nettement au-dessus de 1, je mets un peu en dessous de 1. J'aurais été moins surpris par la chute des recettes, et mon budget aurait été... peut-être un peu plus dégagé, mais c'est là où le Haut Conseil fait son rôle. Le Haut Conseil le disait, il disait, mais attention, on ne peut pas rester avec des élasticités au-dessus de 1 en moyenne, faites attention à cela. Donc ça, je pense que c'est le Haut Conseil est dans son rôle. Dans la croissance économique, il faut être extrêmement prudent, parce que même de façon très sincère, on peut se tromper dans un sens comme dans l'autre.
Alors, on verra qui a raison entre Bercy ou alors la Commission des affaires économiques européennes, qui a dit qu'on serait plutôt en 2025 à 5, là où Bercy dit 4,1, 0,9 d'écart.
Là, c'est beaucoup. Non, mais alors, oui, non, mais vous savez pourquoi ? Non, mais là, par contre, on sait pourquoi.
Alors,
juste
vraiment
en
rapide,
parce que la Commission, sur l'année N+1, c'est-à-dire 2025, fait à politique inchangée. Mais oui, mais alors que le gouvernement intègre sa politique, c'est-à-dire intègre les 20 milliards. Donc, bien entendu, oui, c'est la commission est toujours comme
est-ce
ça.
Qu'il y aurait,
jamais faire le N+1, regarder la commission N+1, parce qu'il ne compte pas la politique économique. Si le gouvernement dit, ben moi je fais 20 milliards d'économies, vous avez l'écart.
Après on fait Booba, je vais être sûr d'en parler.
Très court. Actuellement, si vous interviewez les responsables sur la probabilité de la fin de la guerre en Ukraine, il y a 1% des gens qui vont vous dire qu'elle est partie, que ça va arriver, et 90% des gens qui parlent sur la guerre en Ukraine vous disent que ça pourrait durer 3-4 ans. Mais il se passe sans arrêt des choses, y compris sur Kharkiv actuellement. L'offensive russe ne va pas exactement où ça veut aller. Ça commence à avoir des conséquences malgré tout sur la société russe. Bon. Imaginons que vous ayez au mois de juin, notamment en préparation des élections américaines, une initiative américaine vis-à-vis de la Russie, et que tout à coup il y a un vrai cessez-le-feu au 1er juillet, vous pouvez parfaitement avoir une année 2025 de la zone euro à +2, +2,5, qui change totalement la donne. Donc on est toujours dans l'attente des mauvaises nouvelles, mais on peut pas exclure qu'il y ait une bonne nouvelle à un moment donné, et ça joue énormément sur le taux d'épargne.
Juste un mot sur la commission dette de Juvin, là, on en parle ou on n'en parle pas en fait ?
Mais attention aux termes qui sont employés, hein, parce que quand j'entends.
Commission sur la croissance de la dette.
Non, mais je ne parle pas de ça, je parle de maquillage là.
Ah, le maquillage,
Olivier Marleix. Ça peut faire peur au marché. Hein. Parce que ça peut rappeler la Grèce. Hein. Attention. Hein, faut...
J'ai trouvé ça très borderline.
Oui, oui, moi j'ai dit...
Maquillage, c'est à la limite du...
Non, mais c'est pas maquillé.
Non, c'est pas du maquillage. Non, mais, c'est une décision du cabinet d'attendre pour voir si ça allait aller mieux ou pas.
On va faire un peu de réforme de l'assurance chômage. Je voulais quand même qu'on parle de la Bouba. On a 13 minutes 50. Alors, on va passer tiens un coup de Bouba avec vous, Jean-Pierre Petit. Joachim Nagel, dans son rôle de... dans son rôle de faucon, logique, patron de la Bundesbank, dit « Ne baissons pas les taux trop vite, c'est prendre le risque de tout casser et de mettre en péril le travail accompli. Est-ce qu'il peut y avoir une baisse des taux trop rapide ?» Est-ce que...
C'est pénible d'entendre les types de la Bouba, c'est toujours pareil. C'est... On croirait que ces types-là qui sont complètement déconnectés à Francfort...
Tu préfères les Néerlandais ?
Non, ils sont aussi pénibles, les Autrichiens aussi.
Qui n'est pas pénible alors ? Non, qui, mais c'est qui les sympas ?
Je l'ai trouvé enfin, un peu moins dogmatique quand même, dans son... parce que je l'ai lu l'interview là, dans les Échos, je l'ai trouvé un petit peu moins dogmatique que d'habitude. Enfin, on croirait que le problème numéro un de l'Europe, c'est d'arriver à absolument... On a des chocs dans tous les sens, de nature très diverse. Son seul problème, c'est d'arriver à 2%. On y est, d'ailleurs.
L'inflation.
On est à 2,4 dans le dernier chiffre. C'est le meilleur chiffre depuis, je sais, très longtemps. Je crois que c'est février 2022, si je me souviens bien. Le chiffre d'inflation sous-jacente, c'est 2,7. C'est l'un des meilleurs chiffres depuis autour de deux ans.
Zone euro, ça ?
Oui, c'est zone euro, oui, bien sûr.
Inflation sous-jacente, donc...
Et tous les indicateurs...
Vous la déconnectez des éléments volatiles qui sont notamment les prix de l'énergie.
Et tous les indicateurs d'inflation montrent que ça va continuer de diminuer.
Donc, il n'y a pas photo, c'est maintenant.
Oui, alors, il faut le faire maintenant, mais surtout, les chiffres d'inflation sont quand même plutôt bons. L'énergie, bon, là, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre en glissement annuel. L'alimentaire, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre en glissement annuel.
Et les prix des services, actuellement.
Les biens manufacturés, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Il reste les services. Ça augmente encore pas mal. Et c'est 45% à peu près de l'indice européen. Mais... grâce aux effets de base, ça va diminuer. D'ailleurs, la dernière fois, là, dans le dernier chiffre, c'est passé sous les 4%. Donc, même dans les services, ça va diminuer. Pourquoi ça va diminuer ? Parce que, regardez les chiffres, les enquêtes de la BCE, notamment sur les anticipations d'inflation. Elle diminue assez considérablement. Le marché de l'emploi est quand même moins dynamique qu'avant. On voit bien, les marges baissent. Donc, forcément, il va y avoir des gains de productivité qui vont être créés par de moindres recrutements, voire même, dans un certain nombre d'industries, par des licenciements, même si c'est modéré. Donc, il va y avoir des ajustements parce que les coûts unitaires de salariaux aujourd'hui sont à 5 en Europe. En zone euro, ils sont c'est-à-dire le double de celui des États-Unis, grâce en grande partie aux gains de productivité aux États-Unis. Donc, ça va s'ajuster à la baisse, forcément. D'ailleurs, les chiffres d'emploi le monte. Et nous, sur nos salaires, on est à la fin de l'année dernière, on était à 5% d'augmentation des salaires moyens en zone euro. Là, on va aller vers 3,5% en fin d'année. Avec quelques gains de productivité, tu vas retomber à 2,5%. Et on sera, sur l'indice des prix à la consommation, je pense qu'on sera à peine au-dessus de 2 à la fin de l'année.
Bon, ça veut dire que c'est le moment de baisser les taux.
Oui, il faut baisser ses taux.
On fait 25 points en juin. Et il faut continuer. On passe.
Alors, il y a juste un point.
Alors, un point, mais parce que là, la photographie était assez...
C'est technique, mais...
Mais c'est toujours technique.
La BCE a trois taux. Hein,
oui.
Il y a le taux de dépôt, le taux refi et le taux marginal. Ce que je pense, c'est que sur le taux de dépôt, qui est à 4...
Le taux pratiqué aux banques, vont...
Lui, il pourrait baisser d'un point, carrément, d'un seul coup.
100 points de base ?
Oui.
Waouh.
Non, c'est l'argent auquel...
Oui.
C'est le taux auquel on rémunère les banques.
Oui, c'est le taux auquel on rémunère les banques.
Ben, je pense qu'il faut le baisser de 4 à 3 et faire 25 centimes sur le refi. Et ça enverrait un signal extrêmement positif sans avoir à toucher le taux marginal qui est le taux de refinancement des banques quand elles ont besoin d'argent. Et voilà, le taux de refinancement, c'est le taux central de la banque centrale, mais c'est le taux de dépôt qu'il faut baisser d'un point. Alors, pourquoi d'ailleurs les Allemands, il faut le dire, il y a un calcul sous-jacent, c'est eux qui prêtent au reste de l'Europe. Donc, quand ils disent « je ne veux pas baisser les taux », c'est notamment le taux de dépôt. C'est ce taux de dépôt, d'ailleurs, qui fout en l'air les banques centrales, c'est ça qui cause leur déficit, ce qui fait que les États pourraient être amenés à renflouer les banques centrales. Donc, il y a une urgence à baisser le taux de dépôt en le déconnectant du refi.
D'accord. C'est un aspect effectivement très technique du sujet, mais fondamental. Bon, après, certains vous opposeront le fait qu'on a des banques qui sont finalement relativement faibles par rapport à leur
concurrence. Non, mais enfin, Jean-Pierre vient de rappeler que l'inflation est à 2,5. On va avoir un taux de dépôt qui descend.
Non, mais je suis d'accord.
Non, mais pour finir, si vous voulez en plus aider les finances publiques, il faut le faire. Une partie.
Et Attends, il faut faire quoi pour les
faire baisser les taux. Vous voyez, une partie de la difficulté, on dit qu'on paye beaucoup d'intérêts, vous voyez, c'est une dépense publique. Ah, c'est quand vous augmentez les taux à court terme, les taux à long terme aussi augmentent. Ça rend aussi aux États une plus grande difficulté. Ça, c'est quand même le premier point. Et le deuxième point, aujourd'hui, on a quand même des gros problèmes en Europe, sur le côté immobilier, baisser les taux, ça va quand même bien intéresser ce secteur-là. Ça va permettre de relancer aussi un peu l'activité. Aujourd'hui, la hausse des taux en Europe, compte tenu du problème qui était un problème d'offre et pas un problème de demande, n'était pas adapté. Donc, je pense qu'on est allé trop loin dans la hausse des taux. Donc, même une baisse aujourd'hui, c'est pour revenir à des taux un peu plus normaux.
Rappelons les erreurs du début de la décennie 2010, où la politique monétaire de Trichet est excessivement restrictive.
Vous pensez à 2011, il monte les taux
juste avant la crise. Et finalement, on a mis 10 ans. Il a fallu d'ailleurs Covid pour qu'on sorte de la trappe déflationniste dans laquelle on était. On n'arrivait pas, rappelez-vous, juste avant Covid, on n'arrivait pas à refaire monter le taux d'inflation au-dessus de 2 malgré des taux négatifs, malgré le quantitative easing. Et les gens qui disent à longueur de temps, là, ici ou ailleurs, que l'inflation va être plus élevée, moi je demande à voir, hein. Faut pas oublier le monde pré-Covid. Hein. On l'a pas complètement.
Et puis surtout avec les Chinois qui déversent massivement leurs marchandises, les prix des produits industriels ne vont pas monter. Non, moi je voulais juste. Il y a une intervention d'un auditeur sur les jeunes et je rebondis sur ce qu'avait dit Eric. C'est clair qu'on a besoin d'un plan d'ensemble en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il faut faire une sous-indexation partielle mais très limitée, du genre moins 1% par rapport au prix, mais que parallèlement, il est exact qu'il y a un gros déficit de logements pour les jeunes actifs. Et moi, je suis favorable à un plan de construction aidé par la puissance publique, de logements de 30 mètres carrés, et je pense qu'il faut en faire 200 000 par an pendant 5 ans pour aider les jeunes actifs. Ça serait un élément central de leur insertion sur le marché du travail. Et il faut avoir à la fois, quand vous voulez, c'est comme la conduite en rallye, hein, il faut jouer du frein et de l'accélérateur. Donc il faut freiner un peu la dépense publique qui est fonctionnelle
accélérer sur dépense publique fonctionnelle. Mais dépense publique, vous prenez la dépense de l'État avec les Saint-Étienne, elle n'est pas plus élevée chez nous qu'ailleurs. C'est sur le social. Et qu'est-ce qui est fonctionnel, pas fonctionnel sur quoi
justement, c'est pour ça qu'on dit sous-indexation partielle des prestations sociales.
Bon, une remise à plat de tous les sujets liés à la politique du logement, ça coûte de l'argent quand même à un moment. Si vous voulez à nouveau aider la demande, si vous voulez baisser la fiscalité des propriétaires.
Non, mais là, c'est pas pareil, je ne parle pas d'un mécanisme fiscal. Jouer de la Caisse des dépôts et des grands constructeurs et leur dire. Et d'ailleurs, le point central aujourd'hui, c'est de leur donner des terrains où construire.
Non, c'est absolument. Mais alors, ça suppose peut-être de revenir en arrière sur certaines contraintes vertes qui ont été inscrites, le ZAN, par exemple.
Ben voilà, exactement.
Jean-Pierre, on parle de la réforme de l'assurance.
Tu viens de faire une remarque qui est intéressante. Tu dis, par rapport à l'étranger, ce qui nous différencie beaucoup, c'est les dépenses sociales et le reste, on est à peu près comparable.
La dépense de l'État est à peu près comparable.
De toute façon, on peut avoir le choix collectif en France d'avoir plus de dépenses pour les retraites, pour la maladie, etc. Ouais. Le sujet est que, de toute façon, tu peux avoir, si l'objectif forcé ou vraiment issu de la volonté politique primaire, c'est de baisser les dépenses non sociales, on peut le faire aussi. Parce que tu ne me diras pas qu'on n'a pas des marges de productivité dans le secteur public, quand même.
Un taux d'absentéisme de 8 à 9.
Voilà, ou dans les dépenses des collectivités territoriales qui ont explosé depuis 40 ans. Ça, on peut très bien faire un effort là-dessus sans toucher au social.
Oui. D'ailleurs, quand on parle d'un plan de désindexation,
c'est un peu plus dur.
Sur un plan de désindexation raisonnable sur 3 ans, où tu fais moins 1% sur les prestations sociales, il faut faire moins 1% sur la dotation globale de financement des collectivités locales pour les forcer à faire des ajustements.
Ils n'arrêtent pas de tirer la langue et de dire qu'ils sont à l'os sur les collectivités.
Non, c'est faux. Quand on se balade sur le territoire, le nombre les investissements des collectivités locales sont considérables.
Mais vous voyez, par exemple, solaire. Je promets, je garde au moins 3 minutes pour l'assurance chômage. Romain Rivaton, qui est quand même un vrai expert des sujets de logement, il explique que la grave erreur de la fin de la taxe d'habitation a mis exsangue les collectivités locales pour pouvoir construire.
Ça, je pense que la taxe d'habitation...
Elle va revenir, elle va revenir.
Ah. La suppression... Moi,
deux fois en une semaine, le retour de la TH.
Pas l'objet.
Oui. Deux fois en une semaine.
Non, attention, il y avait un objet politique. Le jour où Macron a annoncé la suppression de la taxe d'habitation, je suivais ça à l'heure près, il a gagné 3 points dans les sondages.
Mais mais c'est toujours une mesure fiscale qui fait qu'on bondit dans les sondages. Le jour où Hollande dit « je vais mettre la taxe à 75%, bingo !»
Voilà, il prend 3 points.
Il était en train de se faire rattraper un peu par Mélenchon qui disait au-delà de 400 000, je prends tout, je crois, je ne sais plus, quel mot, 350 000.
Il prend pas mal, lui, de toute façon.
Et paf, taxe à 75%, et il monte dans les sondages. La réforme de l'assurance chômage, Éric Ayer. Le gouvernement est décidé à passer par décret, le groupe Lyot devait essayer de s'y opposer. On a décrypté ça plusieurs fois déjà dans l'émission, on voit bien qu'il y a un aspect espoir de retour à l'emploi et un aspect économie. Et les arguments de ceux qui disent « oui, il faut la faire, c'est tendu sur le marché de l'emploi, même si on rogne un peu, on restera largement plus confortable que les autres pays ». Et d'autres qui disent « non, là, vous allez pénaliser les plus fragiles ». Et puis, on ne fait pas ça à un moment où, malgré tout, le taux de chômage est en train de repartir à la hausse. Et voilà, on en est là. Et on n'a toujours pas les arbitrages finaux, mais on voit à peu près à quoi ça ressemble.
Oui, enfin,
il faut y aller, il ne faut pas y aller.
Non, moi je pense qu'il ne faut pas le faire. Bon, pourquoi ? Parce que, un, d'abord, on a quand même fait 3 réformes, me semble-t-il. Il y a eu quand même 5 grosses mesures de réforme de l'assurance chômage depuis 2010. Attendons déjà de comprendre comment ces réformes ont influencé finalement l'incitation à la reprise d'emploi, quel type d'emploi. Voyez, on aimerait bien avoir un peu de temps. Voyez.
Il y a des choses déjà visibles.
Hein. Alors, des
le passage de 4 à 6 mois de durée de travail effectué pour accéder a déjà été vu dans la durée des contrats qui ont été accordés par la suite.
Ok, j'aimerais savoir entre nous, dans la reprise d'emploi, qu'est-ce qui est lié à ce phénomène-là ? Qu'est-ce qui est lié ? Vous voyez, depuis 2017, on a des difficultés de recrutement record. Et on battait record sur record, même si maintenant ça a quand même bien baissé. Et on est bien en dessous de quasiment tous les pays européens. On est en dessous de l'Allemagne, en dessous de l'Espagne, vous voyez, en termes de difficultés de recrutement, d'après Eurostat, des États-Unis, etc. Quand vous avez des difficultés de recrutement, ouais, habituellement, dans le passé, difficultés de recrutement, on voyait un trimestre plus tard les salaires réels augmenter et 3 trimestres plus tard la productivité augmenter. Il y avait ces phénomènes-là. Donc plus de productivité et des salaires réels quand il y avait des difficultés de recrutement. Là, on a des difficultés de recrutement depuis 5 ans et on a tout l'inverse. On a des salaires réels négatifs et on a une productivité qui s'est effondré, d'accord. Donc, vous voyez, ceux qui vous prennent des études du passé pour dire ça a marché et on doit l'appliquer, on va dire on n'est plus dans le même monde. Aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à expliquer en France, c'est pas où sont les salariés, c'est pourquoi on en a embauché autant compte tenu du peu de croissance, d'accord. Donc, c'est les pertes de productivité. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je pense pas que et c'est ça les difficultés de recrutement, c'est que tout le monde recrute à tour de bras alors que il n'y a pas de croissance économique. À quand tout le monde recrute, c'est plus difficile pour recruter. Et donc, le problème, vous voyez, les taux d'emploi n'ont jamais été si élevés.
Oui,
donc, pensez qu'aujourd'hui, c'est les chômeurs qui ne veulent pas travailler, qui fait que globalement, on n'arrive pas à repartir. Non, c'est se tromper. Les difficultés de recrutement sont bien supérieures ailleurs. Encore une fois, regardons les études d'Eurostat. Eurostat vous dit les difficultés de recrutement sont supérieures dans tous les pays, à part l'Italie. D'accord ? Donc, je pense qu'on se trompe en faisant cela. Je pense que c'est une façon de faire des économies et de rassurer les marchés et notamment Standard & Poor's, parce que quand vous faites ça, vous engagez des économies, c'est certain,
oui, c'est
d'accord,
ça.
Qu'il n'y aura pas de manifestation parce que les chômeurs ne vont pas dans la rue et on ne soutient pas les chômeurs, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on enlève des droits aux salariés, et ça, je ne crois pas que ça soit le bon moment de le faire.
Alors, je suis en désaccord.
D'abord, vous avez 45 secondes pour dire un désaccord, mais pas plus.
Alors, le désaccord, il est très précis, c'est sur le nombre de mois pendant lesquels on doit avoir travaillé.
Oui.
Pour avoir des droits. Actuellement,
mois,
on est
24...
passé de 4 à 6 mois.
Oui, de 4 à 6 sur les 24.
En Allemagne,
derniers.
C'est un an. Et je pense qu'il faut passer à 8 mois pour une raison simple. C'est les arbitrages infra-annuels sur chômage, activité, c'est-à-dire les gens qui bossent 6 mois pour toucher 6 mois de chômage.
Il faut au-delà des 6.
Et donc, le fait de passer de 6 à... Vous avez évoqué le fait que de 4 à 6 mois, ça a déjà changé les contrats de travail. Mais ce qui sera encore plus significatif, c'est de passer de 6 à 8.
Il y a deux pistes. Hein. Certains qui disent que ça va être 9 mois sur les 24 derniers ou 8 mois sur les 20 derniers mois.
Mais vous ne pensez pas que l'augmentation... Ouais, est-ce que l'économiste est capable de contrôler tout et de dire si on est passé de 4 à 6, c'est grâce à la réforme? Mais non, il y a des difficultés de recrutement. Il est normal que la qualité de l'emploi s'améliore et que la durée augmente. Est-ce qu'on arrive à contrôler ça? Non. Donc dire avec certitude, c'est la réforme qui a permis de passer de 4 à 6, c'est tromper les gens.
Merci Eric Ayer d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Jean-Pierre Petit, Christian Saint-Etienne, on se retrouve demain à 9h, jour du Cercle des économistes.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Jusqu'au 26 juin, pendant les journées My Audi, profitez des séries limitées Audi Black Edition avec notamment le modèle A1 Sportback à partir de 410€ par mois avec apport et ses équipements d'exception comme le pack esthétique noir plus, la caméra de recul, les jantes et le volant Audi Sport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur Audi.fr.
Offre en LLD sur 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 800€ réservé aux particuliers dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. My Audi signifie mon Audi. Pensez à covoiturer.